Et je vais appeler sur la scène Madame la sénatrice Catherine Conconne, Madame Laetitia Dejaham, déléguée régionale d'Homme des projets NQT, et Sophie Lubin, présidente de l'association Marie's Project.
Oui.
Vous pouvez les applaudir, merci. Alors, en premier, on va commencer par Madame la sénatrice qui est à l'initiative d'un projet qui s'appelle Aller virer en Martinique. Merci.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Martinique, dans la très belle ville du Lorrain, de mon ami Justin Bonfil. La Martinique et la Guadeloupe sont en train de vivre un véritable drame. Alors, il y a des gens qui minimisent ça, ça fait même rire lorsque je dis que la population vieillit, etc. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à une inéluctable fonte de notre population. Et sur ces deux belles îles, il y a des gens qui vivent. La vie, c'est des humains, c'est la nature, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi des Guadeloupéens et des Martiniquais. Lorsqu'on vous annonce que ces populations perdent 4500 personnes par an, il y a de quoi mettre un gyrophare sur la tête et passer en mode urgence. Pour vous donner un seul chiffre, la Martinique, jusqu'à 15 ans environ, il y a cela 15 ans, comptait 400 000 habitants. 400 000 habitants, avec une part importante de cette population qui était jeune, très jeune. Dans les années 60, on faisait beaucoup d'enfants. Les mamans avaient 5, 6, j'en ai connu qui en ont même eu 19. On connaît ça. Et maintenant, depuis, on n'est plus du tout, mais vraiment du tout, dans cette réalité-là. Comment on peut envisager le développement d'un pays, son développement économique, son développement durable, sa vie tout simplement, quand on sait... Par exemple, pour la Martinique, que dans une dizaine d'années, on sera à peine 230 000 habitants. Avec une part de ces 230 000 qui aura plus de 65 ans. On se retrouve dans des configurations totalement différentes, avec des besoins qui vont naître, qui vont coûter cher, et une population active qui sera de plus en plus faible, de moins en moins jeune, et qui donc ne sera pas au rendez-vous du développement, ne sera pas au rendez-vous de la consommation, ne sera pas de la production de biens, y compris culturels. Il y a 5 ans environ, sensibilisé par ce grave problème, que j'estime être le problème majeur de nos deux îles, j'ai pris une initiative appelée Aller virer. Aller virer, en créole, martiniquais, ça veut dire partir et revenir. Beaucoup de ces jeunes, ces 4500 personnes dont je vous parle, partent souvent faire des études, s'installent ailleurs, trouvent l'amour ailleurs, le travail ailleurs, épanouissement ailleurs et ne reviennent pas. Comment faire pour redonner de l'attractivité à la Martinique? Comment faire pour redonner de l'attractivité aux offres d'emploi et d'activité qui existent? Eh bien, c'est tout le challenge qu'on s'est donné. La première chose que nous avons réalisée avant même de monter l'association, parce que moi, j'aime bien savoir de quoi je parle. Vous savez, on est dans des pays de croyances, y compris mystiques, de tout. La rumeur va vite, les a priori sont légion. Et pour mettre au mieux, au service de la Martinique, cette expertise que nous avons envie de développer, nous avons avant tout mené une étude. Cette étude a consisté en quoi ? Lorsque nous avons annoncé que nous voulons nous inquiéter de la démographie et du retour au pays en particulier, entre autres, hein, pas que, de nos forces vives, on est tombé sur des gens qui n'ont pas arrêté de nous dire « c'est pas la peine, personne ne reviendra, ah, rien pas bon Martinique, autrement dit, rien n'est bon en Martinique. » Je sais que vous êtes tous ici pas d'accord avec ça. Rien ne se passe, il n'y a pas de travail. Et puis finalement, quand on va les faire rentrer, on va les payer au SMIC alors qu'ils ont Bac plus 8. Au milieu de tous ces a priori, comment trouver un métronome qui puisse dire la vérité? On a lancé une étude en décembre 2018, en fin d'année 2018. Une étude qui s'est faite via les réseaux sociaux avec un vrai questionnaire qui devait être rempli par 75% de personnes à l'extérieur de la Martinique et 25% par des gens qui avaient fait le voyage de retour à la Martinique. Il fallait écouter, savoir et éviter d'être pollué. Vraiment, hein, je ne mets pas de guillemets sur le mot, tellement la pression était forte par des gens qui pensent que finalement il n'y avait pas de problème et que comme les sardines au fond d'une boîte, moins on serait nombreux et mieux ce serait. Et finalement, cette étude est venue battre en brèche tout ce qu'on nous avait dit, tout ce qu'on croyait. Je vous donne ainsi quelques chiffres. En une journée, notre étude avait déjà reçu 1000 réponses. 1000. Les statisticiens, des gens, des experts, hein, dont l'ancien directeur de l'INSEE, qui nous avait aidé à monter cette étude, nous avait dit, allez, avec 1000 réponses, vous serez à 99% de la vérité. En une journée, on avait 1000 réponses. Et nous avons commencé à travailler à 4000 réponses. Ces 4000 réponses, on les a eues en moins d'une semaine. Et c'est ainsi que nous pouvons vous dire aujourd'hui que 80% des Martiniquais qui avaient été interrogés voulaient retourner chez eux. 80%. Tout de suite, dans 2 ans, dans 5 ans, mais ils voulaient retourner. Que 2/3 de ceux qui étaient rentrés en Martinique avaient au moins retrouvé leur salaire égal à celui qu'ils avaient quand ils étaient en France. Je dis bien 2/3. Et qu'au milieu de tout ça, l'emploi était certes important, il faut bien travailler, mais qu'il y avait une donnée qui était fine, qui était de cœur, qui était importante. Une grande majorité de ceux qui étaient rentrés, pour ne pas dire la quasi-intégralité, le leitmotiv premier, c'était retrouver sa famille. Des gens qui vous disaient, je vois mes parents vieillir, il n'y a personne pour s'occuper d'eux, il faut qu'on revienne. Et une fois rentrés, ces personnes nous disaient, même ceux qui avaient un peu perdu de leur revenu, nous disaient, eh bien vous savez, même en ayant perdu 200-300 €, il y a un tel bonheur de vivre en Martinique. On n'a pas l'hiver, on n'a pas les grandes distances, on n'a pas les gamins arrivés à 4h du matin pour aller prendre le RER, etc. Et on a une telle qualité de vie, malgré les problèmes que l'on connaît, hein, de transport, etc., que nous sommes heureux et tout ça vaut bien tous les euros du monde qu'on aurait éventuellement perdu sur nos revenus. Et de là, à l'issue de cette étude, nous avons monté un plan de travail en 20 fiches action que nous déclinons jusqu'à présent. Avec comme premier élément que j'ai souhaité très vite, c'était de professionnaliser l'action. Nous étions une association de bénévoles, hein, chacun avec leurs activités. Moi, je suis parlementaire, je cours toute la journée. Les autres, ce sont des professionnels, parfois à la tête de grands groupes, etc. On n'aurait pas eu le temps de nous consacrer exclusivement à cette tâche. Et donc, on a décidé de professionnaliser cette action, de recruter une chargée de mission qui nous permettent, au moyen des quelques subsides qu'on arrive à récolter ici et là, dans les subventions de l'État en particulier, au moment où je vous parle, il n'y a que l'État qui nous aide, un peu dommage, mais c'est comme ça, à pouvoir, en tout cas, travailler au retour au pays en Martinique, à l'accompagner. Et je vous donne un seul chiffre avant de passer la parole à Stéphie Salpêtrier, qui est la chargée de mission, qui va vous expliquer ce qu'on fait rapidement. Eh bien, de vous dire que, par exemple, l'an dernier, ce sont environ 400 familles martiniquaises qui ont été accompagnées au retour à la Martinique. Je dis bien famille. Je vous laisse multiplier par le nombre d'enfants, conjoints, etc., que ça peut faire. Ce sont des bouches à nourrir en plus, ce sont des écoles qui auront des enfants inscrits. C'est une activité qui va être générée, mais c'est aussi un pays qui retrouve ses codes, qui retrouve sa chaleur, qui retrouve les éléments constitutifs de qui ont fait son peuple. La solidarité aux côtés de nos aînés, cette proximité que nous avons et ce lien social qui devient de plus en plus important et indéniablement important lorsqu'on vieillit. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, quelques petits mots pour me présenter. Je suis Stéphie Salpêtrier, la chargée de mission de l'association Allez Virer. J'ai fait moi-même mon retour au pays en 2019 et ma mission principale aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre le plan d'action de l'association et d'accompagner toutes ces familles qui ont ce désir de retour au pays. Donc, je vais passer un petit peu sur les chiffres. Aujourd'hui, vous avez pu le voir, notamment avec Madame la sénatrice qui vous les a présentés. Mais dans l'idée, voilà ce que représente la population martiniquaise qui est en forme de champignon avec, là où vous retrouvez le creux, une population âgée de 20 à 40 ans qui est massivement hors du territoire. Allez Virer à quelques chiffres, aujourd'hui c'est 400 familles accompagnées, ce qui représente des milliers de Martiniquais qui ont pu rentrer grâce à nos actions. C'est une communauté de plus de 20 000 personnes sur les réseaux sociaux qui nous suivent, qui relaient les informations, c'est très important aussi à ce niveau. C'est 33 partenaires, 33 acteurs socio-économiques qui se sont engagés à nos côtés afin de faciliter concrètement le retour au pays. Et puis, c'est un plan d'action composé de 20 actions. Donc, Allez Virer, deux missions. Premièrement, lutter contre le dépeuplement de la Martinique à travers justement le retour au pays des forces vives sur le territoire, le retour au pays de nos talents. Et puis, deuxième mission, la mise en avant de l'attractivité du territoire, la mise en avant de nos atouts, nos talents, tout ce qui nous rend fiers d'être Martiniquais. Donc, pour ça, Catherine Conconne le disait tout à l'heure, notre première action a été de lancer une enquête. On a pu, parmi les grands enseignements, savoir que 8 Martiniquais sur 10 vivant hors du territoire souhaitaient rentrer au pays. On a pu également, parmi les autres enseignements de l'étude, savoir que l'insertion professionnelle après un retour au pays est extrêmement rapide, hein, puisque 44% des personnes qui sont rentrées au pays avaient déjà trouvé un emploi avant même de poser un pied sur le territoire. Donc cette étude qui a été menée en 2018 nous montre que bien avant le Covid, des entreprises, des acteurs économiques faisaient le pas vers les Martiniquais basés hors du territoire pour aller les chercher et les ramener sur le territoire. Après avoir analysé les résultats de notre enquête, nous avons défini un plan d'action qui est composé de 20 actions, avec parmi elles une journée dédiée au retour au pays qui est organisée chaque année au mois de juillet et durant laquelle nous organisons sur la matinée des conférences en lien avec le retour au pays, comment investir dans l'immobilier en Martinique, quels sont les métiers en tension, quels sont les stratégies à mettre en œuvre pour trouver un emploi sur le territoire notamment. Et l'après-midi, nous organisons un job dating. Nous avons lancé également en juillet dernier la plateforme numérique dédiée au retour au pays, notre site internet, allezvirer.com. Il s'agit d'un site sur lequel on pourra retrouver toutes les informations utiles et pratiques dans le cadre de retour au pays, à la fois des offres d'emploi, des conseils, mais aussi un référentiel de tous les acteurs qui interviennent à un moment donné ou un autre. Et puis, un petit focus sur notre dernier bébé qui aura un an demain, la résidence du retour au pays, qui est le logement, une alternative au logement, en tout cas sur le territoire, un logement qui peut accueillir toute personne qui souhaite rentrer au pays, mais qui ne souhaite pas ou qui ne peut pas forcément aller chez la famille. Donc il s'agit d'un logement de 126 mètres carrés avec 3 chambres, 2 salles de bain, enfin toutes les commodités et à proximité de tout, qui est accessible à partir d'un loyer qui débute à 14 euros la nuit. Donc nous sommes volontairement très en dessous des prix du marché. Et ce logement nous a été mis à disposition par la CIMA et a été financé par la CAF de Martinique, mais aussi par de nombreux acteurs privés qui nous ont permis de le meubler, de le décorer, d'en faire un véritable cocon pour toute personne qui rentre au pays. Et puis, en parallèle de nos actions, aujourd'hui, nous mettons en place des partenariats avec des acteurs clés du retour au pays, de façon à créer un écosystème en faveur du repeuplement de la Martinique, qui est fondamental, je le rappelle. Donc à ce jour, nous sommes en partenariat avec tous les acteurs de l'emploi, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, les cabinets de recrutement, NQT, qui est présent aujourd'hui aussi à nos côtés, de façon à avoir un très large réseau et pouvoir conseiller, orienter les candidats vers leur employeur ou vers une structure qui peut les accompagner dans leurs recherches. Nous sommes en partenariat aussi avec des acteurs du logement, on l'a dit. Aujourd'hui, les candidats ont certaines difficultés parfois à accéder au logement. Il est fondamental d'en faire une priorité. Avec des banques, avec qui nous avons créé des produits sur mesure, des taux des prêts à taux préférentiel, par exemple, voilà, entre autres. Et puis, un petit focus sur un de nos accompagnements. Grâce à nos partenaires, aujourd'hui, à partir du moment où une personne rentre en Martinique avec un CDD, CDI ou même un contrat d'intérim et que cette personne est à la recherche d'un logement, elle peut rentrer dans un circuit où elle sera accompagnée de A à Z sur la recherche de son logement, la mise en fonction du logement, eau, électricité, assurance, internet par exemple, le fait de pouvoir inscrire ses enfants à l'école ou à la crèche. Des petits cadeaux de bienvenue, comme la mise à disposition d'un véhicule, le transfert depuis l'aéroport vers son lieu de résidence. Et il s'agit d'un accompagnement qui est totalement gratuit pour toutes ces personnes et une prise en charge qui est complète. Voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute.
Je vais maintenant appeler Laetitia Dejaham, qui est d'ailleurs l'un des partenaires de Aller Virer sur leur programme, et qui est pour l'association NQT. J'ai oublié de vous préciser que les trois associations qui sont assises ici aujourd'hui sont toutes les trois lauréates de l'appel à projet du ministère des Outre-mer pour aider les jeunes des Outre-mer.
Bonjour à tous, merci de nous accueillir ce matin. Effectivement, je vais vous présenter un peu plus en détail l'association NQT, qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on souhaiterait faire avec, bien évidemment, toutes les villes et collectivités ultramarines. Alors NQT, c'est une association qui a 17 ans, qui a été créée en région parisienne, sur un territoire de la Seine-Saint-Denis, qui est une association engagée pour l'égalité des chances et qui est partie d'un constat très simple, en fait. C'est que les jeunes qui misent sur les études, les jeunes qui ont des bacs plus 3, des bacs plus 5, qui viennent de milieux sociaux modestes, qui viennent de quartiers prioritaires, ont énormément de difficultés, malgré le fait d'avoir réussi leurs études, à trouver un emploi pérenne à hauteur de leurs qualifications. Donc nous, en fait, on a mis en place un système de mentorat par des cadres, des chefs d'entreprise, des acteurs des collectivités, qui donnent un peu de leur temps de façon bénévole pour accompagner ces jeunes dans leur recherche d'emploi. Les jeunes qu'on accompagne sont des jeunes venant de milieux sociaux modestes, des jeunes bénéficiaires du RSA, des jeunes qui résident dans des zones de revitalisation rurale, qui sont éloignés en fait du tissu économique local, avec leurs parents eux-mêmes à la recherche d'un emploi dans 9 cas sur 10, et qui n'ont finalement pas ce qui manque le plus dans nos départements pour pouvoir trouver un emploi, c'est-à-dire la connaissance d'un tissu local qui peut être extrêmement difficile à lire sur nos territoires, et surtout un manque de réseau. À CV égal, un jeune qui n'a pas de réseau sera potentiellement désavantagé par rapport à un jeune qui sera prescrit d'une façon ou d'une autre. Donc ce système de mentorat, au niveau national, ça représente un peu plus de 60 000 jeunes accompagnés depuis 17 ans. On est à plus de 2500 jeunes maintenant accompagnés dans les départements d'outre-mer où nous sommes présents. Donc nous sommes présents en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Et au bout de 6 mois en moyenne, on a 70% de nos jeunes qui trouvent un emploi pérenne et à hauteur de leur qualification. Pour tout ça, on mobilise en fait un réseau de mentors. Donc on a un peu plus de 10 000 mentors au niveau national, un peu plus de 1000 entreprises adhérentes à l'association qui jouent le jeu, et aussi des collectivités avec lesquelles on travaille au quotidien. Ce qu'on souhaite faire, nous, principalement avec les collectivités, c'est que vous puissiez vous engager aussi en tant que ville, en tant qu'intercommunalité, dans cette responsabilité sociétale. C'est vrai que ce sont des sujets qui parlent de plus en plus, on en entend beaucoup parler dans les entreprises, et les collectivités aussi peuvent s'engager sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on souhaiterait vous proposer, ce sont des partenariats pour pouvoir, d'un côté, valoriser les parcours de réussite des jeunes de vos territoires qui misent sur les études, aussi pour connaître une forme d'ascenseur social, et qui trouvent des emplois à hauteur de leur qualification, de pouvoir bien évidemment travailler en synergie avec l'ensemble des partenaires, puisque nous sommes conventionnés dans l'ensemble des départements où nous sommes présents, avec l'intégralité des partenaires emploi, des associations de retour au pays également, pour faire ce lien pour les jeunes qui partent étudier ailleurs ou ceux qui veulent poursuivre leurs études simplement dans d'autres départements, de pouvoir aussi engager vos collaborateurs dans cette démarche. C'est-à-dire comment on peut créer aussi en interne, chez vous, des communautés engagés, de mentors, qui donnent un peu de leur temps de façon bénévole pour accompagner les jeunes de vos territoires. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de vous, on a beaucoup d'entreprises classiques, hein, on va dire privées, qui sont dans notre réseau, mais finalement, quand on a un jeune qui veut faire de l'urbanisme, qui veut travailler sur les subventions publiques, gérer des appels à projets, bon, ben, ce sont des métiers qu'on ne retrouve pas forcément, ou d'ailleurs très rarement, dans des entreprises classiques, mais qui sont des métiers que vous avez, en fait, au sein de vos mairies, au sein de vos collectivités, et qui sont attractifs pour les jeunes. Ces métiers sont aussi mal connus du grand public. Finalement, quand vous avez des besoins de recrutement, est-ce que vous éprouvez ces difficultés aussi à recruter des jeunes diplômés dans ces secteurs-là? Et c'est ça aussi le rôle que peut avoir un mentor. C'est d'aider le jeune à se créer un réseau, à savoir l'utiliser, chose assez importante sur nos territoires insulaires ou continentaux pour la Guyane, et de pouvoir simplement redonner, en fait, transmettre votre métier à des jeunes qui souhaiteraient travailler dans les mêmes secteurs d'activité. Bien évidemment, il y a des enjeux de communication. On crée aussi, nous, des clubs de jeunes diplômés sur chacun des territoires pour permettre à cette communauté aussi de jeunes d'échanger entre eux sur des thématiques qui leur sont chères, en mettant en place des ateliers dédiés, des présentations métiers, des visites de sites. Et on a aussi tout un autre volet qui est comment valoriser le côté l'économie, en fait, de vos territoires, en se demandant comment aller toucher aussi les entreprises de vos territoires, qui sont parfois des territoires isolés, pour faire comprendre aux entreprises qui sont autour de vous que cette notion de faire connaître leur métier est extrêmement importante. Alors, je prends l'exemple du Nord, hein, de la Martinique où on est. Beaucoup de nos jeunes diplômés vont travailler dans le centre, qui est le plus gros pôle économique de l'île. Alors, on a le même cas avec la Guadeloupe, la Réunion, ou même la Guyane, hein, pour le coup sur les départements qui nous concerne, et de pouvoir mettre aussi en avant des actions sociétales comme ça dans des entreprises qui sont présentes sur vos territoires, qui ne sont pas assez mises en avant finalement au niveau régional, de faire connaître leur métier, de faire venir les jeunes dans ces entreprises-là, pour que les jeunes, en fait, de vos collectivités, s'ils le souhaitent, puissent rester aussi proches, bah, de leur cercle familial s'ils le souhaitent, et de ne pas aller forcément sur les zones économiques pour travailler. Donc voilà, on espère que de plus en plus de collectivités vont nous rejoindre. On a un peu plus de 40 collectivités adhérentes à l'association au niveau national. On a 4 collectivités des Outre-mer qui sont adhérentes à l'association. Alors, je les cite, je ne sais pas si elles sont présentes aujourd'hui. On a Cap Excellence en Guadeloupe, la CARL, le Grand Sud Caraïbe aussi pour la Guadeloupe. Beaucoup de Guadeloupéens, pour le coup. Et on a la CACL en Guyane, avec lesquelles on travaille également et qui s'engagent au quotidien justement pour accompagner les jeunes de leur territoire, les entreprises du territoire, mettre en avant les parcours des jeunes qui réussissent, travailler en complémentarité avec les acteurs du territoire et permettre à cette jeunesse, en fait, de pouvoir rester chez eux si elle le souhaite et de mettre en avant ces parcours de réussite tout simplement. Alors, je vous laisse à la suite les coordonnées de l'association. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, en tout cas, on serait ravis de pouvoir travailler avec vous sur ces thématiques-là et sur ces thématiques d'insertion. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Les slides seront toutes remises disponibles sur notre site internet. Maintenant, nous accueillons Sophie Lubin du Maris Project.
Alors, bonjour. En attendant que les slides soient projetés.
Donc, je suis Sophie Lubin. Je suis originaire de Guadeloupe. Ma mère est de Trois-Rivières. Mon père est du Moule. J'habite dans la région parisienne. Je travaille dans l'aéronautique. Je suis responsable performance dans une DSI. C'est important de le dire. Et je suis la présidente et fondatrice de l'association Atmaris Project, que j'aime bien appeler Think and Do Tank, parce que ça fait plus sexy. Parce qu'on réfléchit et parce qu'on fait des choses, surtout. Je suis secrétaire générale adjointe du CNFF, Conseil National des Femmes Françaises, et je suis Youth Advisor, donc conseillère jeunesse, pour le Conseil international des femmes. Je fais partie du board de la fédération Le Parc Numérique, qui œuvre pour l'inclusion numérique des populations d'outre-mer, et je représente, j'ai envie de dire, l'inclusion féminine du parc numérique. Vous pouvez passer à la statue. Vous pouvez revenir juste avant. Donc c'est important, je tiens vraiment à préciser que je travaille, hein, j'ai un vrai travail qui prend beaucoup de temps. Néanmoins, je garde quand même un peu d'énergie et un peu de temps pour cette association Admaris Project, et je suis contente de passer avec ces deux autres associations, parce que vous allez voir que tout est lié, on vit dans un système et on mène tous des actions qui fonctionnent ensemble. Alors si on passe à la slide précédente, on a fait un constat pour la Guadeloupe. Je vous ai dit que je suis originaire de la Guadeloupe, donc j'ai démarré par la Guadeloupe. Le constat qu'on a fait, c'est que les femmes sont les premières à être visées par les inégalités sociales, que ce soit en termes de taux de chômage, que ce soit en termes de qualification. On a beaucoup de familles monoparentales, hein, c'est surtout des femmes qui sont familles monoparentales plutôt que des hommes, et puis les salaires sont très très bas. Donc, ce qu'on a imaginé, je vais continuer sur les constats, le constat sur le retard sur le numérique, vous l'avez constaté aussi, je pense, à la période Covid. Vous avez pu constater la dépendance économique des territoires au tourisme et puis à l'alimentation, hein, je pense que vous l'avez vu de façon très très forte. Il est important de travailler sur les fractures numériques, on en parle depuis ce matin. Et puis, ce que j'ai entendu aussi depuis que je suis ici cette semaine, on a besoin de ressources pour répondre aux problématiques des territoires. J'ai pas mal entendu qu'il fallait recruter des jeunes pour travailler, qui chez Engie, qui chez la SARA, pour travailler sur ces différentes problématiques. Donc ça, c'est le constat qu'on a fait. Alors, ce qu'on a imaginé, moi et puis mes partenaires, c'est de faire du numérique un outil d'insertion sociale et un levier économique local. Alors, la voie qu'on a choisie, c'est notre raison d'être. Et ça, je le décline, nous le déclinons à chaque fois que nous faisons un événement. Premièrement, on identifie des rôles modèles tech et scientifiques issus des Outre-mer. Nos enfants ont besoin de voir ces gens-là. C'est indispensable, c'est capital. Nos jeunes ont besoin de rêver, c'est le deuxième point de notre raison d'être. Et pour rêver, ils ont besoin de voir des gens qui ont des métiers qui les valorisent, des gens qui ont des métiers dans ces milieux tech et scientifiques, pour pouvoir se dire, ben, si ces personnes ont réussi à faire ça, eh ben, moi aussi je peux le faire. Et ça c'est capital, c'est crucial. On a besoin de voir cette diversité dans ces milieux-là pour pouvoir pousser nos jeunes à aller un peu plus loin. Troisième point de la raison d'être de Maris Project, c'est de veiller à ce que les filles et les femmes soient partie prenante dans les décisions, dans les projets tech et scientifiques. Les femmes, en tout cas sur la Guadeloupe, mais j'imagine que ça doit être à peu près pareil sur les autres territoires outre-mer, ont un rôle capital dans les sociétés. On ne peut pas imaginer que le futur va se construire sans qu'elles soient partie prenante. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je n'en veux pas. Donc, la proposition de valeur de Maris Project, c'est très simple, c'est vulgariser tech et science, c'est pouvoir montrer aux jeunes, à la jeunesse en général, mais surtout aux jeunes filles, que c'est pas compliqué en fait. Bien sûr, ça demande du travail quand on arrive à un certain niveau, mais c'est pas compliqué. Donc je vais vous dérouler quelques actions rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, vous aurez les slides après, pour vous montrer comment on fait pour faire en sorte que les jeunes filles se disent « Ah ben tiens, bah, peut-être que je vais regarder cette voie-là quand je vais choisir mon orientation professionnelle ». Le deuxième point, si vous voulez revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît, c'est faire de l'excellence une valeur forte. Je travaille dans l'aéronautique, ça veut dire que chez nous, l'excellence, on ne peut pas faire autrement. Il y a plein de choses qui ne vont pas, hein, chez nous, dans mon travail, dans ce que je fais. Moi, je fais des erreurs aussi, je fais des boulettes. Par contre, on essaye toujours de faire au mieux et de faire au maximum. Il y a une expression en Guadeloupe qui dit « i bon con ça ». Moi, je ne veux plus de cette expression. Le « i bon con ça », peu importe le domaine, que l'on soit dans le bâtiment, que l'on soit dans la restauration, que l'on soit dans la tech, que l'on soit dans la science, on ne peut plus accepter le Ibon Consa. Ibon Consa, ça veut dire on fait à peu près, c'est fait maintenant, on passe à autre chose. Non, il faut vraiment qu'on arrive à inculquer cette culture de l'excellence. Si on veut faire la différence, si on veut remporter des marchés, si on veut être sûr que les clients reviennent, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Et effectivement, nous, en tant que seniors, j'ai envie de dire, si je me mets dans cette catégorie, nous devons servir d'exemple et bannir le Ibon Consa. Alors, quelques actions. Je ne vous ai pas mis toutes nos actions parce que sinon, j'en aurais pour 3 heures. Mais une des actions qui m'a tenue particulièrement à cœur, c'est l'Olympiade féminine de maths. C'est une femme qui n'est pas du tout des Antilles, qui est originaire du Cameroun, qui habite à Amiens, qui a une prépa scientifique en ligne, qui organise les Olympiades féminines de maths. Quand je me suis adressée à la communauté éducative, on m'a dit « bah oui, nous on a déjà des Olympiades de maths, donc ça on n'en a pas besoin ». Par contre, ce que j'avais envie de leur dire, j'ai pas pu le faire, mais ce que j'avais envie de leur dire, c'est « oui, vous avez des Olympiades de maths, mais ces Olympiades féminines de maths, elles permettent 2 choses ». Premièrement, elles permettent aux jeunes filles de commencer à se faire un réseau entre jeunes filles. Si ces jeunes filles font des études de maths, il y a de grandes chances qu'elles aient un très bon métier plus tard. Donc l'embryon de réseau, il est déjà créé pour plus tard. En fait, on travaille à moyen long terme. Et deuxièmement, on leur donne accès à des femmes auxquelles elles n'auraient pas accès autrement. Ça va être des gens comme Elisabeth Moreno, ça va être des gens qui font de la recherche aux États-Unis, ça va être des gens qui ont des écoles d'intelligence artificielle. Et ça, c'est capital. Moi, je travaille à moyen long terme. Je ne travaille pas à court terme. Le Guada Girls Tech Day, c'est l'événement vitrine de Marie's Project. C'est un événement qu'on a mis en place en Guadeloupe l'année dernière, en novembre, en pleine crise Covid. Je peux vous dire que c'était très compliqué, mais on l'a quand même fait. Et on a renouvelé l'expérience cette année, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Le Guada Girls Tech Day, c'est quoi? C'est un événement qui nous permet de mettre en avant les rôles modèles. On revient sur la raison d'être de Marie's Project. Les rôles modèles tech et scientifiques. Donc on identifie des femmes qui ont des métiers tech et scientifiques que l'on doit voir, que nos jeunes doivent voir. Par exemple, nos marraines, sur l'année dernière, c'était Lovely Euphrasie-Clotilde, qui est scientifique, qui a reçu un prix lauréat UNESCO l'année dernière, et Muriel Tramis, je ne sais pas si vous connaissez Muriel Tramis, mais c'est une femme qu'on ne connaît pas suffisamment, et pourtant, elle a marqué des générations d'enfants, elle qui a créé le jeu Adibou, auquel moi-même j'ai joué. Grâce au Guada Girls Tech Day de novembre, on a EDF qui nous a soutenus et qui nous a donné 20 ordinateurs. Grâce à ces 20 ordinateurs, on a pu faire, pour le Pôle emploi, des ateliers pour des femmes en reconversion professionnelle. On leur a fait de l'initiation au code. J'ai rédigé également un livre blanc. J'ai étudié tous les chiffres de l'IEDOM, les chiffres de l'INSEE. J'ai tout pris, j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai rédigé un document. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quelqu'un de Sciences Po qui doit être là, j'ai vu ça dans le programme demain. J'aimerais bien discuter avec cette personne pour qu'on aille un peu plus loin dans cette étude. Parce que quand on parle de numérique, on ne peut pas juste parler d'outils. Il y a un impact social qui est très fort et il faut regarder tous ces éléments-là. Alors bien évidemment, je suis très très fière de vous dire qu'on a fait l'Outre-mer Girls Tech Day jeudi dernier, donc j'étais en Guadeloupe la semaine dernière. L'Outre-mer Girls Tech Day, c'est la suite du Guada Girls Tech Day, mais qu'on a appelé Outre-mer Girls Tech Day parce qu'avec mon partenaire, le Parc Numérique, on a décidé de décliner cet événement sur différents Outre-mer où est implanté le Parc Numérique. D'ailleurs, je vais profiter d'être ici pour commencer à préparer l'Outre-mer Girls Tech Day Martinique avec des partenaires locaux. Je suis très très fière de cette édition 2, hein, parce que c'est une édition 2, parce que nous avons rempli nos ateliers, nous étions au complet, 150 enfants. C'était magique et j'ai reçu de très jolis mots de la part des établissements scolaires et ça fait vraiment chaud au cœur, d'autant plus que la Basse-Terre n'est pas toujours présente sur ce genre d'événement. Et là, je peux vous dire qu'ils sont venus en force, sachant que je viens de Trois-Rivières pour moitié, et bien j'étais particulièrement ravie qu'ils soient présents et en force et contents. Dernière action que j'aimerais vous présenter, J'habite sur Paris, et sur Paris, je travaille avec une école d'intelligence artificielle, et on met en place des conférences participatives sur la façon dont l'intelligence artificielle peut aider le développement durable, peut répondre aux ODD. Voilà. Et quand je fais ça, ben, quand je suis sur Paris, j'essaye de rameuter une communauté outre-mer pour faire du réseau. C'est toujours pareil, hein. Sans réseau, on n'y arrive pas. Il faut du réseau pour réfléchir ensemble et proposer des solutions ensemble. Et en parallèle, eh ben, je mène des actions que je décline sur la Guadeloupe. Donc la fondatrice de cette école était en vacances en Guadeloupe au mois d'août. Ben, je lui ai dit, ben, tu vas travailler un petit peu, tu vas aller chez Guadeloupe Tech et tu vas rencontrer des gens qui travaillent soit sur le développement durable, soit sur l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on a fait. Donc notre vision, pour terminer, notre vision, c'est la suivante. Un, on investit sur l'éducation de la jeunesse. Et surtout, on vise l'excellence. On vise l'excellence parce que c'est ça qui fait la différence. On fait le parti des cerveaux locaux. Parce que les problématiques mondiales ne nous épargnent pas. Je pense que vous vous en rendez compte avec la pluie, l'eau qui monte, etc. On a besoin de solutions qui viennent du terrain. Donc oui, c'est très bien d'aller chercher des solutions à droite, à gauche. C'est parfait, moi je suis pour l'ouverture, je ne suis pas du tout pour l'exclusion. Mais par contre, il faut aussi qu'il y ait des réflexions qui viennent du terrain. Des gens qui vivent ici, qui savent ce qu'ils vivent, qui savent prendre la parole des anciens, qui savent l'écouter et la mettre au goût du jour et la faire évoluer avec les nouvelles technologies. C'est capital. Et enfin, on a besoin de préparer un terrain accueillant pour faire revenir les jeunes. On a besoin de leur dire, bah, revenez, parce qu'ici on a du taf, et je vous jure que vous allez aimer ce que vous allez faire ici et pour vos territoires. Je veux juste finir sur, alors c'est pas vraiment une citation, je vous ai pas mis la citation parfaite, mais c'est un livre que j'ai découvert l'année dernière, qui s'appelle Une histoire des inégalités, c'est un Autrichien qui a écrit ce livre, et ce monsieur dit qu'il y a quatre cavaliers de l'Apocalypse pour pouvoir changer une société et faire basculer peut-être l'inégalité d'un côté ou de l'autre. Et parmi ces quatre cavaliers de l'Apocalypse, il y a notamment la pandémie. La pandémie, c'est ce qu'on a vécu, et c'est aussi ce que Hannah Arendt appelait les heures plastiques. Je vous laisse sur cette réflexion, tout ça pour vous dire que c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Quand la porte va se refermer, on va être parti pour plein d'années, et ce sera...
This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.